Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Open Studio Stammtisch.
Las citas de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Opera Studio Rendezvous.
和科尔玛歌剧工作室的约会。
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Let's go meet the Opera Studio.
Dites à Famette de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Встреча с оперной студией.
Opéra Studio, Boyana.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de RDL 68, contrôlés ce matin toujours comme d'habitude par monsieur Francis, qui est fidèle au poste et qui m'épaule dans ces moments parfois difficiles de préparation de ces émissions. Donc l'Opéra Studio, centre de formation d'excellence pour jeunes artistes lyriques situé à la Manufacture de Colmar, que j'ai la joie de diriger en qualité de directrice musicale et qu'animatrice radio. Amatrice seulement. Soyez indulgents. Aujourd'hui, je reçois Brinda Poupard. Bonjour Brinda.
Bonjour Sandrine.
Et je suis heureuse de prendre le temps que nous laisse l'émission pour bavarder avec toi. Alors tout d'abord, la première question. Te souviens-tu de ta première rencontre avec la musique ?
Alors ma rencontre avec la musique, elle s'est faite à un âge si éloigné
oh,
que
oui,
je ne m'en souviens pas.
Très très vieille, bien sûr, oui.
Non, mais en fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille de musiciens. Donc en fait, j'ai toujours baigné dedans. Et j'ai toujours chanté un peu partout aussi, comme Floriane aussi. Ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours porté. Après, mes premiers souvenirs un peu plus précis, c'est surtout au violon, en fait. Parce que je suis la cinquième d'une fratrie de 8 enfants. Et tous mes aînés pratiquaient déjà un instrument de musique, et mon papa aussi. Donc on faisait beaucoup de musique de chambre à la maison, et même il y a des photos de moi à côté de mes frères et sœurs qui font leur instrument, où je suis déjà en train de lire sur la partition ce qu'ils sont en train de jouer, et on faisait énormément de musique ancienne. Donc ça, ce sont mes premiers souvenirs très forts, c'est en famille, de la musique ancienne.
C'est magnifique ce début dans la musique. Oh oui, tu as beaucoup de chance. Et donc, tu as commencé, donc tu ne sais même pas à quel âge, tellement ça a toujours
non.
été ça, en fait, finalement.
J'ai toujours baigné dedans,
oui. Oui, oui, c'est ça. Et après, plus tard, quand tu as décidé de vraiment étudier, donc tu as commencé par le violon, c'est ça ?
Oui, c'est ça, j'ai commencé à 6 ans.
D'accord, et donc tu avais un professeur chez toi ou bien tu allais au conservatoire ?
Non.
Comment ça se passait ?
J'allais au conservatoire comme tous mes frères et sœurs. D'ailleurs, les 5 premiers, donc jusqu'à moi, on fait tous du violon.
Ah, bah c'est bien, on peut faire un orchestre, c'est bien.
Et après, les suivants sont un peu diversifiés. Il y en a un violoncelliste, un clarinettiste, un oboïste.
Ah, mais c'est très, très riche. Très
donc c'était vraiment chouette de pouvoir faire de la musique tous ensemble à la maison. Mais effectivement, voilà, j'étais inscrite en conservatoire, en violon, en solfège aussi, c'était obligatoire pour faire l'instrument.
Oui.
Et à partir de mes 8 ans, 9 ans, j'ai commencé déjà à pratiquer l'orchestre.
C'est ça. Et donc la voix, quand est-ce que c'est venu cette envie de chanter ?
Eh bien, ça a été aussi transmis familialement parce que tout le monde chantait aussi. Ils faisaient tous partie de la maîtrise de Bretagne qui était à ce moment dirigée par Jean-Michel Noël,
oui.
D'une main de maître absolument. Il a créé énormément de vocations. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont passés à la maîtrise qui sont aujourd'hui des grands chanteurs lyriques français. Et donc voilà, j'ai commencé à 6 ans la pré-maîtrise, qui nous préparait vraiment à rentrer dans la maîtrise des grands. Et après, quand j'ai eu 9 ans, j'ai intégré la maîtrise des grands.
D'accord. Et le répertoire alors qu'on chante quand on a 6 ans, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on vous
alors,
fait chanter ?
On était en Bretagne. Alors évidemment, on faisait beaucoup de chants
bretons. Mais c'est très bien, le répertoire de chant
breton.
J'ai
chanté beaucoup en breton et on adorait ça d'ailleurs. On faisait beaucoup de comptines qui étaient harmonisées évidemment. Et y avait... Ce genre de musique-là d'ailleurs était beaucoup réharmonisé par Jean-Michel Noël ou sa sœur Swazik Noël qui du coup s'occupait de la pré-maîtrise.
D'accord. Donc en fait, réharmonisé, c'est-à-dire écrit pour plusieurs voix.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'était une mélodie qui était retravaillée par
exactement.
Ces personnes-là et qui écrivait spécialement pour vous.
C'est ça.
Une adaptation à plusieurs voix.
Tout à fait.
Donc vous avez
canon aussi.
Voilà, c'est ça. Donc canon, plusieurs voix. Donc la polyphonie très tôt dans ta formation de chanteuse. Et donc voilà une édification, enfin comment dire, une construction artistique très 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 organisée
oui.
en fait. Voilà c'est le solfège.
Ça. Apprendre à chanter avec les autres.
Voilà
de la musique
faire
ensemble.
De la musique ensemble. Mais oui, c'est bien ça la beauté de ce métier. Et qu'es-tu venu chercher à l'Opéra Studio entre la pré-maîtrise et l'Opéra Studio, il a dû se passer un petit peu des choses.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter ?
Alors, très brièvement quand même.
Oui.
J'ai eu une première rencontre très importante avec un professeur de chant que j'ai vu seulement deux fois dans ma vie, à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et en fait, il a été très décisif parce que j'étais un peu perdue à ce moment-là. Je sentais que j'allais vraiment droit dans le mur. Et en fait, quand je l'ai rencontré, il m'a dit d'ailleurs clairement ça. Il m'a dit, vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur. Je dis bon, d'accord.
Parce que c'était droit dans le mur, parce que ta façon de chanter risquait d'abîmer ta voix.
C'est ça.
Pourquoi ?
Ah, exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. J'avais pas une façon de chanter qui était très, comment dire ça. Je chantais. J'avais des années de pratique de maîtrise, mais par contre, j'avais pas appris à chanter d'une façon saine.
D'accord.
Et donc, parce que voilà, quand on est fait de la musique et qu'on est comme ça, baigné dedans depuis toujours, on fait les choses de manière très instinctive, mais du coup, pas toujours forcément à l'écoute de son corps.
D'accord.
Et donc, il m'a vraiment appris à être à l'écoute de ce corps-là. Et ensuite, après cette rencontre-là, j'ai tenté le concours d'entrée au CNSM de Paris. Et j'ai été prise à ma première tentative. J'avais 20 ans et je venais juste d'intégrer les chœurs de l'Opéra de Rennes, dans lesquels je suis restée seulement une année, du coup.
Oui.
Et où je chantais beaucoup avec l'ensemble Mélisme aussi, qui est un ensemble breton.
Oui.
Excellent d'ailleurs.
Oui.
Dirigé par Gilles Dapinger.
Oui, tout à fait. Qu'on salue. Qu'on salue au
Qu'on
passage.
Salue, oui.
Je parce que bien évidemment, ce matin, il écoute RDL 60.
Évidemment.
C'est évident. Au studio, donc, quel est le quotidien de Mademoiselle Brinda Poupard, chanteuse de la promotion 21-22? Comment ça se passe, une journée type? Alors, il y a plusieurs journées types à l'Opéra Studio, parce
oui.
que, voilà. Donc, il y a une phase de préparation, une phase de répétition, une phase de
récupération.
Voilà, de restitution, on dit, mais c'est un mot pas très joli, disons, de représentation, voilà, de concert public, de prestation publique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à l'Opéra Studio?
Alors, on apprend assez tôt quand même tous les projets qui sont à venir dans l'année. Donc, par exemple, là, on sait déjà quels sont tous les projets qui vont être amenés à chanter l'année prochaine. Donc, on travaille déjà. Moi, depuis le mois de janvier, je travaille sur ce qui va me donner plus de difficultés vocalement et au niveau de l'endurance aussi. Parce que quand on est dans un opéra studio, il faut être endurant. Il faut être persévérant, endurant et très travailleur. Et il faut savoir aussi aménager son temps pour récupérer, justement, parce que c'est très intense. Mais c'est absolument passionnant parce que on se voit les uns les autres évoluer et progresser, parce que quand on fournit autant de travail et qu'on est évidemment sur des bases saines, parce que chaque chanteur ici a quand même une bonne technique, donc c'est s'entretenir, c'est entretenir sa voix, son corps, son alimentation. On sent qu'on est vraiment complètement professionnel.
Vous êtes vraiment, oui, c'est certain. Vous êtes, en fait, vous êtes au seuil de. C'est comme vous êtes au bord du nid. Et nous, on est là, on vous dit, allez-y, ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller, vous avez tout ce qu'il faut. Mais vous êtes vraiment tous au bord du nid, ça, c'est évident. Mmh. Et c'est d'ailleurs un plaisir de vous voir effectivement évoluer d'imaginer et de projeter votre avenir. Comme ça, parce qu'on sait ce qui va se passer. Et on vous souhaite le meilleur, bien sûr, et vous le méritez tous. Et effectivement, beaucoup d'endurance, parce que notamment un répertoire très varié,
oui.
Des projets relativement rapprochés les uns des autres, et puis un opéra nomade qui s'est promené dans toute la région Grand Est avec une quarantaine de dates. Donc, l'enfant les sortilèges, dont tu tenais le rôle de l'enfant, voilà. Et aux côtés de tous tes collègues de la promotion, c'est une très très belle aventure. Mais bien sûr, c'est fatigant, c'est sportif. Il y a des moments où c'est l'euphorie, des moments où on est un petit peu fatigué, on ne sait plus où aller chercher l'énergie. On la trouve, c'est ce qui
on
est
la
magique.
Trouve, il y a une grande solidarité
oui,
entre
oui,
chanteurs.
Oui,
donc,
c'est ça.
Et pas que avec chanteurs, là aussi, très bien.
C'est ça, c'est ça.
Par Sandrine ouais. Abello, notamment.
Ah bah Sandrine Abello.
Oui.
Qui est là, le supporter. Nous allons commencer notre écoute. Là, tu nous as fait une petite playlist. Et donc, le premier extrait, alors bon... Tristesse de la lune, ça s'appelle. Donc sur un poème de Charles Baudelaire tiré de son célébrissime recueil Les fleurs du mal, mis en musique par Rita Stroll, que je ne connaissais pas moi-même. C'est une musique très très belle. Qu'est-ce qui te touche dans cette musique?
Alors déjà, c'est une compositrice d'origine bretonne. Elle est née à Lorient et je l'ai découverte dans une démarche justement dont a été à l'initiative Kélik Baucher, qui est évidemment un ténor breton, que j'ai rencontré au CNSM de Paris, et qui est devenu un très grand ami au cours de ses études. Et en fait, il a une démarche absolument passionnante qui a été de faire revivre et remettre au goût du jour, faire découvrir tous ces compositeurs classiques bretons qui sont d'un très grand intérêt et dont il faut absolument connaître la musique. Et donc, c'est, voilà, ça fait partie de cette démarche. Et il y a eu toute une série d'enregistrements avec trois duos dont je faisais partie. Et voilà, on a enregistré toute une série de musiques qui sont complètement inédites.
Très bien, nous allons écouter donc La tristesse de la lune, accompagnée au piano par Anne-Louise Bourion et donc notre Brenda qui chante. Très belle Tristesse de la Lune, mise en musique par Rita Stroll sur un poème de Charles Baudelaire, interprété ici par Brenda Poupard, mon invitée, accompagnée au piano par Anne-Louise Bourion. Cet enregistrement a été fait à l'Opéra de Rennes.
Tout à fait, dans le cadre donc de ce projet monté par Kélik Baucher.
C'est ça, c'est un très très bel opéra d'ailleurs que je connais très bien, dans lequel j'ai un petit peu sévi. Voilà, mais bon, mais le sujet n'est pas là. Continuons à parler de toi, ma chère Brenda. Alors, une chanteuse d'opéra, ça chante avec un orchestre, mais est-ce que ça répète toujours avec un orchestre ?
Ah oh, non. ça répète surtout avec des pianistes qu'on appelle les pianistes chefs de chant, qui est d'ailleurs un terme que j'ai découvert lors de ma première année au Conservatoire de Paris. Je ne connaissais pas du tout. et je suis absolument ravie d'avoir découvert ce que c'était, parce que ce sont un peu nos anges gardiens. Ce sont les personnes qui nous préparent tout au long de l'année, qui nous aident à préparer des rôles, qui nous aident à l'interprétation, qui nous aident même vocalement, qui nous portent en fait. C'est qui nous permettent d'ensuite pouvoir assurer tout ce qu'on a assuré dans l'année sur des scènes d'opéra ou en concert.
C'est ça. Parfois, ils vont jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire qu'ils vous accompagnent pour les concerts. Et parfois, ils vous accompagnent jusqu'au moment où l'orchestre arrive et l'opéra se joue finalement sans eux. Mais est-ce que pour autant leur rôle est terminé à ce moment-là ?
Non. Effectivement, ils accompagnent pendant toute la durée quand on fait une production d'opéra. On ne peut évidemment pas faire répéter l'orchestre pendant un mois et demi avec les chanteurs. Donc au départ, on a ce chef de chant qui est là, qui travaille énormément jusqu'à la General Piano. Et ensuite, une fois que la General Piano est passée, l'orchestre arrive.
La General Piano, finalement, qu'est-ce que c'est une General Piano ?
C'est quand on va pouvoir filer tout l'opéra en costume, maquillé, en réelle condition, avec le pianiste en fausse.
Voilà, qui remplace l'orchestre. Et donc, une fois que tout ça est réglé...
L'orchestre arrive.
Voilà, la répétition suivante, l'orchestre est là.
L'orchestre arrive et le pianiste chef de chant va trouver une petite place dans la salle avec sa partition, son petit pupitre, sa petite lumière et continue à nous faire des notes, des retours en permanence parce que quand l'orchestre arrive, il y a énormément de choses qui changent. Il y a évidemment des questions de balance, mais voilà, tout simplement pour pouvoir continuer à nous mettre sur la bonne piste et qu'on continue à pouvoir chanter comme on a travaillé les choses tout au long de la préparation.
Voilà, c'est ça. Et il faut dire que vous chantez par cœur. Donc, à force de chanter par cœur, même si le soir à la maison, après les répétitions, vous relisez vos partitions, à force de chanter par cœur et de devoir intégrer tout un tas d'informations pour la mise en scène.
Que ce soit les nuances aussi.
Exactement. Donc, certaines choses peuvent se gommer de la mémoire, peuvent aussi être un petit peu changées. Et donc, le chef de chant est là avec sa partition, effectivement, sa petite lumière, et avec une bienveillance et
une attention.
Une attention, mais sans cesse renouvelée chaque jour. Il l'écoute avec une oreille neuve, alors que la partition lui-même l'avait travaillée avant de la travailler avec les chanteurs. Donc lui, ça fait 3 mois qu'il est sur la partition, ou elle, et toujours avec cette oreille pour déceler la petite chose qui est bien, mais qui pourrait être mieux, ou la petite note qui est un peu trop tôt, un peu trop tard, etc. Et donc c'est un rôle très important parce que c'est un rôle de confiance, en fait. C'est l'oreille extérieure, c'est la personne qui est dans la salle, qui vous dit voilà, de la salle, voilà, ça, j'entends ça. Donc le public entendra ça. Donc si ce qu'il entend dans la salle lui paraît bien et équilibré, tout va bien. S'il a l'impression que le chanteur n'est pas tout à fait à son avantage, s'il pense qu'il y a un problème, l'orchestre est trop fort, le chanteur trop loin, etc.
Exactement.
Il est là pour le dire.
Et puis d'ailleurs, la plupart du temps, les chanteurs n'attendent même pas d'avoir les retours, ils vont les chercher directement auprès du chef de chant.
Et non seulement il les donne aux chanteurs, les notes, mais il les donne aussi au chef d'orchestre. Exactement. Parce que le chef d'orchestre, qui est tout près de son orchestre et tout près des chanteurs, n'a pas non plus le recul géographique, et c'est normal.
C'est ça.
De fait. Et donc, il a vraiment besoin.
Non, mais c'est vraiment la petite oreille indispensable.
Ah oui, le chef de chant, c'est une personne indispensable. C'est un travail de l'ombre, mais indispensable. Donc, on les salue bien, nos deux chefs de chant de l'Opéra Studio, Levi Gerk et Rosa Kim, qui nous ont accompagnés toute cette saison sur tous les projets de l'Opéra Studio. Bon, une petite question, un petit peu, mais bon, un rôle que tu rêves d'interpréter, parmi tous ceux que tu rêves sûrement d'interpréter, que tu peux en sortir un de ton petit chapeau.
Ah, disons Despine.
Ah oui.
Così fan tutte.
Pourquoi ?
J'adore absolument ce rôle. Oui. Et je l'adore encore plus depuis que j'ai vu la production, d'ailleurs, à l'Opéra du Rhin. Il était interprété par... alors, je préfère ne pas dire son prénom, parce que je vais complètement l'écorcher.
C'est pas grave.
Mais voilà, je vous laisse le soin d'aller...
sur le site.
Tout à fait, je vous laisse le soin d'aller vérifier sur le site. Mais elle m'a inspirée d'une façon absolument incroyable. Elle était absolument merveilleuse. C'était, je pense, la meilleure Despine que j'ai jamais vue.
C'est vrai que j'ai vu le spectacle, en effet... Elle a un charisme assez impressionnant.
Tout à fait, j'avais envie de sauter sur la scène.
Oui, elle campe un personnage très très beau. Brinda, malgré ton très jeune âge, tu as un parcours très riche et tu as déjà participé à de nombreux concerts et projets lyriques. Et puis, tu as été nommée Révélation Classique 2021 de la DAMI.
Oui.
Alors, peux-tu nous expliquer ce que cela signifie pour toi ?
Bah alors, c'est un super tremplin et c'est un moment... c'est une façon de mettre en avant des artistes qui ont déjà toutes les clés en main pour être embauchés en tant qu'artistes solistes en différentes maisons d'opéra ou à qui on peut accorder notre confiance pour faire un programme de récital dans un festival. Et c'est aussi une famille, parce que la Dami, j'ai vraiment complètement découvert ça en rentrant dans cette sorte d'académie, voilà, en étant nommée Révélation à Dami. J'ai fait la rencontre de toute l'équipe et puis évidemment de tous les artistes qui étaient à mes côtés. Et c'était absolument formidable, surtout que c'était après la période Covid très intense, où on n'avait plus rien, où c'était très compliqué. Et ça a fait du bien de se retrouver un peu tous ensemble et de faire intensément de la musique.
Très bien, je le comprends tout à fait. C'était une période très difficile. Le deuxième extrait musical que tu as choisi a été, lui, enregistré à l'Opéra de Massy en décembre 2020 et s'intitule « Amore e morte » et a été composé par Monsieur Donizetti. Nous t'écoutons tout de suite dans cet extrait magnifique. Venons d'entendre Brinda Poupard nous interpréter Amore e morte de Donizetti. Elle était accompagnée au piano par Thomas Palmer. Et je crois, Brinda, que tu voudrais nous expliquer les circonstances de cet enregistrement.
Oui, c'était assez particulier parce que donc c'était à l'Opéra de Massy. Et en fait, nous étions en production à ce moment-là pour la recréation de l'opéra de Gilbert Ami, le premier cercle qui avait été donné fort longtemps auparavant à l'Opéra à Lyon. Et des répétitions ont pu commencer à se dérouler. Et en fait, la deuxième vague, le deuxième confinement est tombé à ce moment-là. Et l'Opéra de Massy a tout fait pour qu'on puisse quand même continuer à pratiquer notre art, même si c'était pas l'opéra en lui-même. Donc on a continué les répétitions de l'opéra, nous n'avons pas donné de représentation, mais à la place, ils nous ont proposé de concocter un programme qui est donc dont est extrait cette mélodie, avec Thomas Palmer, qui était donc notre chef de chant sur la production. Et donc voilà, nous avons donné ces concerts et aussi un petit concert à Noël. Voilà, il y avait deux programmes différents et je remercie particulièrement la maison de l'Opéra de Massy qui a été absolument extraordinaire de soutien et de gentillesse.
Et là encore, nous saluons toute l'équipe de l'Opéra de Massy qui nous écoute ce matin sur RDL 68. Est venu le temps du portrait chinois. Je sais, Brenda, que tu adores ça. Alors attention, on y va. Alors, gentil, si tu étais un animal.
J'aimerais bien être un oiseau.
Un oiseau.
Un rouge-gorge.
Ah oui, ça te va assez bien, je dois dire. Oui, d'accord. Si tu étais une salle de concert.
Oh là là, l'Opéra National du Rhin ou l'Opéra de Limoges sont mes deux maisons préférées.
Très bien. Si tu étais un moment de la journée.
Oh, je dirais le matin, tôt le matin quand le soleil rentre dans l'appartement.
Et un trait de caractère.
Oh,
ça c'est pas facile, vas-y.
J'allais dire hystérique, bon c'est pas vrai.
Non, ce n'est pas vrai, alors voyons le côté positif de ce mot, s'il te plaît. Ça veut dire
Très, très active.
Voilà, c'est ça, voilà. Bah, c'est très bien, voilà, c'est très très bien et ça te caractérise tout à fait. Nous allons nous quitter avec un extrait de Wonderful Town de Leonard Bernstein, compositeur américain génial qui a composé notamment le célébrissime West Side Story. Ici, j'ai choisi de vous faire entendre un extrait d'une autre œuvre de ce compositeur. L'action se déroule durant l'été 1935. On est à New York. Deux sœurs s'y installent, rêvant de conquérir la ville. Nous écoutons Edith Adams qui nous chante « It's so nice to be alive ». L'enregistrement a été réalisé en 1953. L'orchestre est dirigé par George Abbott. Merci Brenda. Je te souhaite ainsi qu'à nos auditeurs une très belle journée sous le soleil. Et pour nous dire au revoir, Edith Adams dans un extrait de « Wonderful Town ».
Merci Sandrine.
Never felt this way before. Just a little bit in love, or perhaps a little bit more. When he looks at me, everything's hazy and all out of focus. When he touches me, I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know, I'm so, I don't know, but I know if it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet someone who bewitches you. Will he be my old, or did I just fall? When he touches me, I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know, I'm so, I don't know, I don't know, but I know if it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet someone who bewitches you.